Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-François Cadet, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Il y aura dans l'histoire économique mondiale, a dit il y a quelques jours le ministre français Bruno Le Maire, un avant et un après coronavirus. Est-ce si certain ? Le Covid-19 serait-il une maladie mortelle pour la mondialisation libérale telle que nous la connaissons aujourd'hui ? Le virus serait-il un symptôme de son dysfonctionnement ? Les attentes des populations envers des systèmes de santé au bord de l'asphyxie et les efforts massifs consentis pour venir en aide aux malades, aux personnes en chômage partiel, aux parents qui restent chez eux pour garder les enfants, à ceux qui prennent le risque de continuer à travailler aussi, signe-t-il un retour en force de l'État ? État-providence, État-brancardier et demain État-réanimateur d'une croissance en asphyxie. Cette crise sanitaire, sociale, économique accouchera-t-elle d'un nouveau keynésianisme, d'une politique économique de dépenses massives pour soutenir l'activité, quitte à voir exploser les déficits et la dette ? Bref, l'économie monde est-elle en train de changer durablement de paradigme et de logiciel, ou la parenthèse sera-t-elle en fait très vite refermée ? Pour en débattre et nous aider à progresser dans tous ces questionnements, trois invités, trois économistes sont en ligne avec nous. Bonjour Christophe Rameau.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne, membre du think tank des économistes atterrés. Également avec nous Kako Nubukpo, bonjour.
Bonjour.
Économiste, ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo. Et puis nous sommes également avec Jean-Hervé Lorenzi, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez, Jean-Hervé Lorenzi, le Cercle des économistes ici en France. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Au cours de cette émission, nous entendrons également le porte-parole en France de l'ONG Oxfam, un dossier de Marine de la Moissonnière sur l'impact de la crise dans la filière textile et un focus de David Bachet sur la situation plus que délicate d'un artisan dans le secteur du bâtiment en région parisienne. Et c'est avec vous, Christophe Rameau, que nous allons lancer la discussion. Alors, cette crise qui est donc sanitaire, économique, financière, elle est universelle. Maintenant, elle touche tous les pays les uns après les autres. Elle contamine l'ensemble des secteurs d'activité. Est-ce que pour vous, cette pandémie, c'est le symptôme de la mondialisation malade du libéralisme que vous dénoncez ?
Tout à fait. On a un modèle depuis 40 ans qui s'appuie en fait sur les volets suivants. La finance libéralisée, le libre-échange, l'austérité salariale, et puis la stigmatisation, la condamnation de la dépense publique. Or là, ce qu'on voit, c'est que la crise, elle met à jour vraiment les limites du libre-échange et les limites de l'austérité budgétaire. Il faut savoir, pour être un peu précis, que, par exemple, si on prend l'exemple de la France est un des pays au monde développé où les dépenses de santé ont le moins augmenté ces dernières années. Elles ont augmenté de plus 0,8% simplement entre 2013 et 2018. C'est trois fois moins que la moyenne de l'OCDE. L'investissement public dans nos hôpitaux a chuté. L'investissement public qui était dans les hôpitaux en général, d'ailleurs, pas simplement public, mais privé aussi, qui était de 11% à peu près de leurs recettes en 2003, a été réduit de moitié. On est à peu près à 5% de leurs recettes. Donc là, on voit bien que, on se doit à présent de remettre en cause ce modèle et de ne pas faire ce qui s'est passé en 2008. Ce qui s'est passé en 2008, si vous voulez, c'est ce qui l'a emporté finalement, c'est la fameuse formule de temps de crédit dans le guépard, tout change pour que rien ne change. Et bien là, ce qu'il faut bien entendu espérer, c'est que on remette l'économie sur ses pieds. Ça veut dire quoi, de mon point de vue? Ça veut dire accepter, assumer le fait que nous vivons dans des économies mixtes, dans lesquelles, bien entendu, il y a du privé, et c'est une bonne chose, mais dans lesquelles il y a besoin d'intervention publique qui existe, en fait, mais qui n'est pas assumée comme telle.
Attendez, on va y venir tout à l'heure, mais je voudrais que Jean-Hervé Lorenzi réagisse à votre propos, Christophe Rameau. C'est vrai, Jean-Hervé Lorenzi, que si on essaie de regarder un tout petit peu en arrière, on voit que les prix des hydrocarbures ont chuté au mois de février, on voit qu'en mars, c'est le cours des actions qui s'est effondré sur les marchés mondiaux, on voit que tous les signaux sont dans le rouge, évidemment, sur le front de la croissance, que la baisse de l'activité confine, sans mauvais jeu de mots, à la récession. Est-ce qu'on peut dire que ce coronavirus a fait éclater une sorte de bulle ?
Non, on ne peut pas le présenter comme ça. Je me permets juste de nuancer un peu le propos de mon camarade Rameau. C'est simplement que C'est vrai qu'il y a eu une baisse des investissements dans le secteur de la santé. C'est vrai qu'on dépense également environ 12% du PIB pour la santé et que ceci peut-être est mal adapté, on peut pas imaginer, mais que c'est l'un des taux les plus importants de l'OCDE. Donc soyons un tout petit peu plus nuancés sur la description, notamment dans nos dispositifs de santé, qui a beaucoup souffert, mais pour des tas d'autres raisons qui ne sont pas uniquement de nature budgétaire.
Mais si la libre circulation des hommes et des marchandises n'avait pas été aussi développée à l'échelle de la planète, est-ce que la transmission du virus se serait produite de la même façon ?
Attendez, je reviens juste, moi je voudrais juste vous dire, répondre à votre première question. Deuxième chose, je crois que cette crise, dont chacun voit l'ampleur, donc c'est pas là-dessus, les moyens qui sont déployés sont des moyens qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'histoire de long terme de l'économie mondiale. C'est brutalement, tout le monde se met évidemment à réagir et c'est la survie. En revanche, je trouve que c'est un accélérateur d'un mouvement qui était parti depuis 4-5 ans, qui est en fait l'évolution, là je suis d'accord avec ce qui a été dit, avec l'explosion du dispositif de multilatéralisme, cette vision qui était une vision en réalité voulue par les consommateurs. On ne peut pas tout mettre sur le dos des méchants politiques, c'était aussi voulu par les consommateurs qui ont vu leur intérêt de manière très à court terme, sans imaginer un instant que derrière tout ça, ça faisait beaucoup de chômage, beaucoup de difficultés, que cette idée de faire baisser un peu les prix avait des conséquences qui étaient très négatives. Quant à la disparition du pouvoir public ou de l'action publique, en France, on ne peut pas complètement dire ça. La réalité, c'est qu'on a quand même pas loin de 50% de, on va dire comme ça, du PIB qui sont plus...
Du produit intérieur brut.
Pas d'ailleurs d'aspect public, mais de protection sociale, etc. Donc, nuançons le propos, on ne passe pas du noir au blanc. Alors, j'ai un dernier point, c'est que toutes les... Ce que me racontait Pierre Decaisse, que vous connaissez bien, hier soir, il me racontait qu'effectivement, la reprise de toutes les pandémies, toutes les épidémies, montre que l'amnésie par rapport à toutes les bonnes décisions qui ont été prises dans au cœur de la crise, cette amnésie est forte. Et 6 mois après, il prenait 2-3 exemples, les gens ont tout complètement oublié et les bonnes volontés. Moyennant quoi, je crois qu'il y aura une évolution du dispositif, mais il y a bien d'autres phénomènes liés au climat, liés au vieillissement de la population, liés à l'impact de la technologie. Je pense qu'on ne peut pas le résumer uniquement à une vision, ce sera keynésienne et pas keynésienne. Quant au rôle de l'État, il est évident aujourd'hui. Est-ce qu'il demeurera aussi important par la suite ? Peut-être un peu plus. Là aussi, nuance, je ne crois pas au basculement dans un autre monde. Je n'y crois pas un instant. Je crois que les choses changeront, mais comme toujours, beaucoup moins que ce qu'on imagine.
Alors, Kako Nubukpo, pour revenir sur le constat de départ, est-ce que vous diriez, vous, un peu à l'instar de Christophe Rameau, que ce coronavirus, eh bien, c'est le symptôme, sinon l'origine, de la mondialisation telle qu'on la connaît depuis une bonne trentaine d'années maintenant ?
Oui, en tout cas, vu d'Afrique, c'est un peu les limites de notre insertion primaire au sein du commerce international. Vous savez que dans le jeu international, la place de l'Afrique, c'est vraiment de fournir des matières premières. Et là, on voit bien avec le coronavirus que la vulnérabilité des économies africaines au choc, à la fois d'offres et de demandes, elle est énorme, parce que vous voyez que le prix du baril du pétrole s'est effondré. Aujourd'hui, on est autour de 20 dollars le baril. Et les budgets des pays africains sont exsangues. Et donc, on prend en plein des chocs dont nous ne sommes absolument pas à l'origine. Et ça montre aussi, finalement, l'erreur africaine qui a été de suivre pendant 30 ans les recommandations du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui finalement se sont beaucoup plus intéressés aux équilibres de court terme, notamment des finances publiques, qu'à des processus de développement, des processus d'émergence, des processus de construction d'État-nation, des processus de pilotage de politique publique en matière de santé, d'éducation. Et donc là, l'Afrique prend de plein fouet finalement une mondialisation que moi je juge inéquitable, parce qu'au fond, elle n'a pas beaucoup bénéficié des gains hypothétique de cette mondialisation.
Alors vous parliez des matières premières à l'instant, Kako Nubukpo. On va prendre un exemple concret pour nourrir un peu notre discussion. La filière coton, une des filières les plus mondialisées qui soit, hein, entre matières premières venues d'Afrique ou d'Asie, usines installées souvent dans les pays du Sud et magasins de vêtements européens ou américains complètement fermés aujourd'hui. C'est donc toute la chaîne qui se retrouve contaminée. Marine de la Moissonnière.
Help us. Do commerce with compassion.
Cet appel à l'aide adressé aux marques de mode internationale, il émane de la ministre indienne du textile elle-même. Un cri d'alarme poussé aussi par d'autres hauts responsables en Asie, où la situation est critique face à l'ampleur des pertes annoncées. La réaction des groupes de prêt-à-porter a été radicale, comme le raconte Anne-Laure Linger, spécialiste de l'industrie textile habillement.
Quand une crise arrive, on l'anticipe. Là, c'est vrai que du jour au lendemain, les magasins ont fermé. Je pense qu'il y a eu un espèce de choc, une sidération. Les marques enseignes ont envoyé un message très fort en fait aux industriels asiatiques en leur disant « vous arrêtez tout, vous n'envoyez plus aucun conteneur en Europe, vous laissez tout en plan, vous ne finissez pas les produits ». Et certaines de ces productions ne seront pas forcément payées.
En Asie, beaucoup d'usines ont donc réduit de manière drastique leur production. Certaines ont même dû mettre la clé sous la porte définitivement. Aujourd'hui, des millions d'emplois sont menacés, même si certaines grandes marques commencent à faire marche arrière et annoncent qu'elles vont honorer leurs commandes. Dans ce secteur, des fermetures d'usines, ce n'est pas inédit, explique Naila Ajaltouni, coordinatrice de l'ONG Éthique sur l'étiquette. Certes, l'ampleur est différente cette fois-ci, mais finalement, le coronavirus agit comme le révélateur d'un problème structurel.
La mode fonctionne tellement à flux tendu. On a une telle prise en compte des travailleurs comme une variable d'ajustement dans le prix, la fabrication des vêtements, que finalement, ces fermetures d'usines sont très fréquentes, avec aucune garantie, aucune stabilité pour ces travailleurs d'avoir non seulement un salaire décent, mais en plus sur la durée, sans compensation lorsqu'ils sont licenciés du jour au lendemain. Et donc, cette question qui est récurrente et qui est vraiment due et à l'incurie des États et des grands donneurs d'ordre, des grandes marques internationales, elle se multiplie avec ce virus.
À l'autre bout de la chaîne, les pays exportateurs de coton subissent eux aussi les effets du ralentissement de la demande. Le prix de la fibre a déjà considérablement baissé et il continue de chuter. Pour certains, il est même inférieur au coût de revient. La situation inquiète Ibrahim Maloum, secrétaire général en charge du commerce à la Coton de Tchad.
Les embarquements se font à compte-gouttes. Il y a des filatures qui ont fermé, ça c'est sûr. Celles-ci demandent de reporter des embarquements, parfois même de renégocier certains contrats. Toutes ces négociations sont en train de se faire. Il y a des règlements au niveau des associations cotonnières, des bourses. Donc, on va faire appliquer, voir l'ensemble de ces règlements ligne par ligne. Il faut se battre pour sauver ces contrats et préserver le revenu de nos cotonculteurs.
Et pour se battre, il faut pouvoir peser. D'après Ibrahim Maloum, l'association cotonnière africaine devrait prochainement adopter une position commune. Mais les cotonculteurs vont sans doute être obligés d'accepter des prix encore plus bas pour la prochaine campagne. Cette crise, elle risque de durer longtemps. En effet, la baisse des cours du pétrole rend le polyester, principal concurrent du coton, plus rentable.
Un dossier de Marine de la Moissonnière sur RFI. Jean-Hervé Lorenzi, est-ce qu'on n'est pas là au bout du bout finalement du système de l'économie mondialisée? Le virus est parti de Chine, autrement dit de l'atelier du monde, et il a contaminé en fait toute la pelote.
Oui, bien entendu, c'est un révélateur et c'est un accélérateur. Je voudrais juste revenir en arrière sur ce qui vient d'être dit qui est de la part du ministre qui est très juste. C'est que nous avons vécu en Afrique, enfin nous, l'Afrique a vécu avec un principe adopté par les gouvernements pendant très longtemps, notamment les gouvernements africains, qui était ce qu'on appelle le consensus de Washington, que vous avez très bien décrit, qui revient à dire que le marché, finalement, les équilibres fondamentaux, budgétaires, etc., sont de court terme, doivent être la règle absolue. Nous avons, c'est ça qui, je crois, et montre bien que le mouvement est plus, j'allais dire, presque en avant de cette épidémie. Nous avions, en décembre de l'année dernière, lancé, avec un certain nombre de gouvernements africains, dont évidemment le gouvernement togolais, mais aussi le gouvernement sénégalais, enfin un grand nombre de gouvernements, nous avions lancé ce qu'on appelle le consensus de Dakar, qui revenait sur toutes ces hypothèses, permettait finalement de considérer que l'équilibre de court terme n'était pas la loi et les prophètes, et qu'il fallait évidemment penser les sujets. Alors c'était très élaboré, et en présence du Fonds monétaire de Kristalina Georgieva, qui est la nouvelle directrice, et qui, semble-t-il, était plus avancée dans sa réflexion que ne le furent ses prédécesseurs. Donc je trouve que c'est bien, au fond, peut-être sur l'Afrique, qui risque d'être un lieu particulièrement touché, par, à la fois sur le plan économique et sur le plan sanitaire, par ce virus, qu'on doit démarrer la réflexion sur la remise en cause d'un modèle qui est évidemment inadapté pour les années qui viennent et qui est en réalité très contre-productif. Cette mondialisation à tout va est évidemment un élément de catastrophe pour le monde.
Et alors Christophe Rameau, est-ce que justement la remise en cause de ce modèle passe aussi par un retour, sinon à une forme de protectionnisme, du moins à une forme de patriotisme national ou continental, ou de relocalisation des activités, comme le dit par exemple le président français Emmanuel Macron?
Écoutez, je pense que contrairement à ce que disait tout à l'heure Jean-Hervé Loretzi, il faut changer profondément de modèle. Il ne s'agit pas d'agir à la marge. Et quelle doit être la boussole? Le problème que nous avons un peu partout dans le monde, c'est que si vous voulez, c'est l'idée que ce capitalisme libéral, avec le libre-échange effréné, la finance libéralisée, nous, à la fois creuse les inégalités, donc n'est pas bon socialement et finalement provoque régulièrement des crises économiques, donc c'est pas bon non plus d'un point de vue économique, il y a un accord finalement là-dessus dans les populations, à défaut d'avoir un accord avec les économistes libéraux. La boussole, c'est qu'en tout domaine, il doit y avoir à la fois du marché, parce que le marché a du bon, la concurrence est du bon, et de l'intervention publique. Je dis bien en tout domaine, et donc y compris dans les relations commerciales internationales. Bien sûr qu'il faut revenir à des mesures de protection. Ça veut dire quoi, protection? Le libre-échange, sa boussole, elle est claire. C'est la possibilité de faire en tout lieu et à tout moment du dumping social, fiscal et environnemental. Et bien ça, il faut bien entendu le remettre en cause. D'abord parce que ça crée des déséquilibres. Vous avez vu que la filière du coton, mais on pourrait généraliser, et M. Nubuko, je suis sûr, a des arguments à avancer en ce sens. Mais donc, en tout domaine, il faut qu'il y ait des règles publiques pour porter, bien entendu, l'intérêt général. Donc le mot protectionnisme ne me fait absolument pas peur. Ça ne veut pas dire revenir à l'autarcie, bien entendu. Il y a besoin de division internationale du travail. Tous les pays ne peuvent pas tout produire. Donc il y a besoin d'échanges internationaux, mais tout ça doit être inséré dans des règles sociales, dans des règles fiscales. Il faut en finir avec ces pratiques de dumping fiscal qui se sont accru finalement depuis 2008. Il faut savoir que les pays se sont livrés à une course effrénée vers une nouvelle baisse de l'impôt sur les sociétés, vers de nouveaux cadeaux fiscaux aux plus riches. Je pense que c'est ce modèle-là effectivement qu'il convient de remettre en cause, y compris en matière de protection commerciale. Oui.
Kako Nubukpo, la réponse c'est un retour aux frontières?
Non, pas forcément. Disons qu'il faudrait un juste échange plus que le libre-échange. On ne peut pas mettre dans le même marché des paysans producteurs de coton africain et producteurs de coton américain quand on sait que les écarts de productivité vont de 1 à 400. Et en plus, il faudrait, à mon avis, améliorer le système commercial multilatéral parce qu'on a vu dans le cycle de Doha, le cycle de développement à l'OMC, Organisation mondiale du commerce, la difficulté que les pays africains ont eue pour faire aboutir les demandes, ce qu'on appelait l'initiative coton, pour que les producteurs américains ne soient pas aussi subventionnés qu'ils le sont aujourd'hui. Donc la difficulté, vous voyez, elle est double pour l'Afrique, c'est d'arriver d'abord à des standards acceptables pour être dans le jeu international, mais également construire des États-nations qui peuvent permettre d'asseoir une puissance publique capable d'impulser des process de développement. Une des difficultés que nous avons à l'heure actuelle, c'est que tous les plans qu'on présente en réponse, ce qu'on appelle des plans de riposte au coronavirus, vous voyez que ce sont des plans de très court terme, alors que l'enjeu pour moi, en tout cas, c'est la transformation structurelle des économies africaines. Donc, une protection peut-être plus intelligente, le juste échange et une capacité finalement à faire les trois choses du développement, c'est-à-dire une vision partagée, une gouvernance irréprochable et de vrais systèmes de suivi et évaluation de nos politiques, programmes et projets.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, débat sur la mondialisation libérale confrontée au coronavirus avec nos invités, les économistes Kako Nubukpo, Christophe Rameau et Jean-Hervé Lorenzi. Alors je vous propose, messieurs, d'écouter à présent Robin Guittard, c'est le porte-parole d'Oxfam France. Son ONG demande un plan Marshall planétaire d'urgence pour la santé publique, dont elle estime le coût à 160 milliards de dollars, avec des propositions très ambitieuses et sur le plan du modèle économique qu'elles induisent, assez iconoclaste. Il est au téléphone de David Bachet.
Un, c'est mettre le paquet et en urgence sur la prévention au Covid-19 dans les pays les plus pauvres. Deux, c'est recruter immédiatement 10 millions de personnels soignants. Trois, c'est garantir la gratuité des soins. Il faut savoir que chaque seconde, 3 personnes dans le monde sombrent dans la pauvreté à cause de dépenses de santé. Quatre, c'est la réquisition de toutes les structures de santé, y compris les structures privées. Et enfin, c'est mettre au point un vaccin qui soit gratuit et universel.
Mais ça, ce sont des propositions difficilement applicables dans le cadre des échanges internationaux actuels et du modèle libéral dominant.
Cette crise est en train de redistribuer un certain nombre de cartes. On a une épidémie qui nous touche tous. Il y a une prise de conscience extrêmement puissante que certaines choses, certains services doivent sortir des échanges économiques normaux. On parle depuis des années de la notion de biens publics mondiaux comme la santé, l'éducation. Mais en même temps, on a encouragé la privatisation et au désinvestissement public de ces biens. Ce que le Covid-19 nous rappelle brusquement, c'est que la santé, c'est un droit fondamental. Et pour le garantir, il faut investir tous les moyens nécessaires.
Ces mesures radicales que vous les prenez pour cette période exceptionnelle ou est-ce que vous appelez à des changements de long terme?
On ne pourra pas sortir de ces crises en disant « on retourne à business as usual ». Ça serait une énorme erreur. On sait de l'expérience, par exemple, d'Ebola en RDC, où pour faire face à cette situation, l'accès aux soins de santé s'est amélioré parce qu'on a permis justement un accès gratuit aux soins. Le nombre de consultations pour les pneumonies, les diarrhées a augmenté. Il y a eu une augmentation de 20 à 50% du nombre de femmes accouchant en établissement de soins. Mais une fois la crise passée, on a annulé tout ça parce qu'on a suspendu l'accès gratuit aux soins. Ça serait une erreur fondamentale de refaire la même chose avec la crise qui nous touche tous. Il faut sortir de cette crise en tirant des leçons bien plus systémiques. Il faut bâtir un modèle qui soit bien plus solidaire, juste et équitable et faire de la santé et des services publics une priorité sur la durée.
Robin Guittard, le porte-parole d'Oxfam France avec David Bachet. Vous applaudissez Christophe Rameau ?
Oui, tout à fait. Il faut cesser de considérer que quand on embauche une infirmière ou un instituteur, c'est un coût. C'est pas simplement utile, si vous voulez, socialement, parce que ça, les libéraux acceptent de le dire. Non, c'est une richesse économique. Il faut savoir qu'un instituteur, une infirmière, dans tous les pays du monde, ça contribue au PIB. Hein, et donc, quand Jean-Hervé Lorenzi dit, bah, en France, on est à 12% du PIB, mais ça serait beaucoup, mais des pays riches. Alors, il faut que ça soit bien géré, bien entendu, on est bien d'accord là-dessus. Mais plus les pays sont riches, a priori, et plus ils ont des moyens à consacrer pour la santé, pour l'éducation, et tout ça, ça augmente le PIB. Hein. Des agents du public dans tous les pays du monde, c'est pas d'abord un coût, ce sont des personnes qui contribuent au PIB au même titre que les agents du privé. Ce qui change, si vous voulez, entre le public et le privé, c'est que le privé, vous payez la marchandise, puisque l'accès n'est pas gratuit. Pour le public, l'accès est gratuit, mais c'est pas gratuit. Et donc, vous le payez par l'impôt, c'est un prix socialisé. C'est la seule chose qui change. Et donc, il faut, comment dire, cesser de voir la part de la dépense publique qui est la production de services publics comme un coût. Et l'autre part de la dépense publique qui est l'essentiel, en fait. C'est pour ça que la dépense publique, c'est pas une part du PIB. Les libéraux ne cessent de vous dire, ah là là, la dépense publique, c'est 56% du PIB. Ils laissent entendre qu'il n'y aurait plus que 44% pour le privé. C'est une bêtise inouïe de raisonner ainsi. Il faut savoir que quand on calcule la dépense privée, comme on calcule la dépense publique, en France, mais c'est valable pour tous les autres pays, on est à 200% de dépenses privées. Donc ça n'a aucun sens. Les trois quarts de la dépense publique, est-ce qui est valable en France ? Et valable dans les autres pays. En fait, ce sont des prestations sociales. Ce sont des pensions de retraite, des allocations familiales, des allocations chômage. Et tout ça, ça soutient la dépense privée. Hein, ça soutient la dépense et donc l'activité des entreprises privées. Et donc, à nouveau, là, il faut cesser de considérer cela comme quelque chose qui serait capté pour faire vivre des fonctionnaires improductifs.
Jean-Hervé Lorenzi ?
Voilà. Premier point, cher Christophe, je n'ai évidemment pas dit qu'il n'était pas souhaitable qu'il y ait une transformation profonde du modèle que nous vivons. J'ai simplement indiqué que mon âge me conduisait, peut-être ma bonne connaissance historique, me conduisait à penser que les choses ne sont pas exactement ce que vous souhaiterez. C'est tout. C'est juste ça ce que j'ai dit et ce que je fais pour partie.
Deuxièmement, le modèle et ce que vous dites, mais j'accepte, mon cher Christophe, ce que vous dites, c'est pas révolutionnaire. Hein, c'est, vous dites que la dépense publique est évidemment un formidable soutien de l'activité économique. Vous dites qu'il faut des échanges mondiaux qui intègrent des éléments et des critères qui sont des critères sociaux. Bien sûr que oui, tout ça. Mais n'importe qui peut penser ça. Troisième aspect, soyons un tout petit peu rigoureux. Objectivement, vous employez le terme de la mondialisation libérale. Aujourd'hui, M. Trump, vous le mettez où ? Il est libéral ou il n'est pas libéral ? De mon point de vue, il est assez libéral et pourtant il est contre la mondialisation telle qu'elle fut. Donc soyons un tout petit peu, j'allais dire, on peut passer le niveau au-dessus et on essaie de se dire quel est le monde dans lequel on peut fonctionner, sachant que les règles de base du multilatéralisme sont mortes, puisque au fond toutes les institutions, avec leurs qualités et leurs défauts, sont en réalité aujourd'hui en panne. Comment peut-on rétablir un dialogue entre les pays ? C'est, de mon point de vue, presque plus subtil que d'opposer libéraux et pas libéraux. Évidemment, Christophe, qu'on est d'accord que le libéralisme et l'état d'esprit sont négatifs. Je suis sur les problèmes africains. Vraiment, j'ai été beaucoup plus loin que ce que vous pouvez même imaginer. Donc, sortons de débats un peu simplistes. C'est plus ça le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut rétablir des formes de dialogue au niveau international qui soient des dialogues autres que de guerre commerciale. Comment peut-on imaginer un modèle dans lequel les éléments majeurs de ce qui fera le monde dans les années qui viennent, les trois éléments majeurs, le vieillissement de la population, la technologie qui met produit beaucoup de travaux non qualifiés, et puis évidemment ce qui a été souligné pour les pays émergents, c'est-à-dire la disparition de fait. Alors là, on retrouve plutôt du modèle de l'ancien temps le modèle très, de mondialisation malheureuse, qui détruisent l'agriculture vivrière. Tout ce que vous avez dit me paraît très juste, mais oserais-je le dire, ce que nous avons fait pour le consensus Dakar et ce que j'ai écrit il y a simplement une semaine sur la manière dont il faudrait peut-être envisager les problèmes en Afrique me paraissent de très loin dépasser, mon cher Christophe, toutes les modifications que vous avez envisagées qui me paraissent bien prudentes.
Alors on va peut-être demander à Kako Nubukpo d'arbitrer le débat avec son regard africain précisément. Kako Nubukpo.
Oui, je pense que de cette crise peut naître une opportunité qui va nous permettre d'être tous d'accord à trois niveaux. Je crois qu'il faut privilégier de nouveau les circuits courts, parce qu'une des leçons de cette crise, c'est une dépendance très forte à l'endroit de la Chine. Et quand les circuits d'approvisionnement sont bloqués, on voit tout de suite les difficultés d'approvisionnement qu'on a dans le reste du monde. Donc, s'agissant de l'Afrique, qui n'est pas encore dans le process industriel, je crois que le fait de privilégier d'emblée les circuits courts peut être une bonne chose. Ensuite, des économies sobres en carbone, là, je crois que dans le suivi un peu de la COP21, de la COP22, cette idée d'avoir une économie sobre en carbone devrait recueillir l'adhésion de tous. Et enfin, une redistribution peut-être plus équitable des fruits de la croissance, parce que c'est aussi une crise des inégalités. Le fait que le profit roi et cet impératif de profit à court terme, finalement, nous ont conduit peut-être à sous-estimer d'autres éléments qui font partie aussi du vivre ensemble.
Et puis justement, à propos du vivre ensemble, il y a aussi évidemment un impact individuel, un impact familial pour l'économie des ménages. Selon Guy Ryder, le directeur général de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, 25 millions de personnes sur la planète pourraient se retrouver au chômage suite à cette crise du coronavirus. Il s'attend, Guy Ryder, à une baisse du revenu des travailleurs qui pourrait aller jusqu'à 3 400 milliards de dollars, ce qui signifie que ce serait encore plus grave que la crise de 2008-2009. Alors, il y a ceux qui ne peuvent plus aller travailler, qui se demandent comment ils vont faire pour subsister, pour amener leur salaire à la maison. On a eu énormément de témoignages d'auditeurs africains, notamment sur RFI depuis plusieurs semaines maintenant. Et puis, il y a aussi les prix qui explosent sur les marchés, les gels hydroalcooliques ou même le riz qui devient hors de prix, la pénurie qui menace dans certains magasins des pays du Sud. Et tout le monde appelle un interlocuteur à la rescousse. Et cet interlocuteur, Kako Nubukpo, c'est évidemment l'État. Le gouvernement indien a par exemple décidé de financer des distributions de riz et de légumineuses à hauteur de 20,5 milliards d'euros. Mais est-ce que les États africains, Kako Nubukpo, ont eux les moyens de répondre à ces revendications ?
Non, ce qu'il y a de positif en Afrique par rapport à la santé, c'est qu'on a une riche expérience des programmes de santé publique parce qu'on a vécu des pandémies comme le VIH, SIDA ou Ebola. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, vous avez un problème structurel, c'est que les recettes, ce qu'on appelle l'espace fiscal, est assez étroit, alors que la demande sociale est très forte. Et je crois que c'est pour ça que tous les programmes d'aide internationale sont bienvenus. Après, la difficulté, c'est que même si vous faites des transferts d'argent aux ménages, il faut qu'ils puissent s'approvisionner sur les marchés. Et là, l'arbitrage en Afrique, il est douloureux, parce que vous avez le choix entre être confiné et mourir de faim parce qu'il n'y a pas de filet social opératoire, ou sortir pour essayer de gagner votre vie, puisque 80% de l'emploi est informel, avec le risque justement d'avoir cette maladie. Et donc c'est pour ça que moi je dis, profitons de cette crise pour construire quelque chose qui ressemble plus à une économie équitable, où on développe des capacités productives. Parce que le problème aujourd'hui en Afrique, c'est que nous payons finalement 30 ans d'ajustement structurel. Et comme Jean-Hervé Lorenzi l'a dit tout à l'heure, notre espoir, c'est de co-construire avec le système international des moyens d'avoir des économies plus capables d'inclure les populations.
Mais vu le contexte, Christophe Rameau, est-ce que les pays du Nord, qui ont beaucoup de problèmes, y compris chez eux, ont l'envie et les moyens d'aider ceux du Sud dans un tel contexte ?
Comment dire, pour remonter un peu en amont, Jean-Hervé Lorenzi, si je puis me permettre, la rigueur et la subtilité ne sont pas les privilèges des économistes libéraux. Donc un peu de, comment dire, d'humilité, surtout compte tenu, comment dire, si je peux me permettre, de votre bilan global entre la crise d'aujourd'hui et la crise de 2008. Bon, mais après, moi je suis pour des convergences, donc je ne suis pas pour jouer la carte du sectarisme. Mais donc, en matière de relance, d'abord, il faut remettre en cause ce système néolibéral qui est aussi profondément inégalitaire. Concrètement, il faut bien entendu, là, les États partout dans le monde se doivent de dépenser plus, il va falloir ensuite réfléchir, bien entendu, aux recettes. Et donc c'est l'occasion ou jamais, et donc là j'interroge y compris Jean-Hervé Lorenzi, j'espère qu'à cette occasion, vous allez revenir, comment dire, sur le fait qu'il est nécessaire, en France comme ailleurs d'ailleurs, de taxer plus fortement les hauts revenus. Donc par exemple, concrètement en France, ça suppose à minima le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Et de façon plus globale, je pense qu'il faut arrêter d'agiter des démons sur les déficits, la dépense publique, mais c'est pareil pour la dette publique. Si vous voulez, la dette publique, elle est, je ne dis pas qu'elle est pas, elle va augmenter bien entendu très fortement, les déficits, la dette publique vont augmenter, mais je dirais que ce n'est pas très grave en soi. Ce n'est pas très grave si ça nous permet de revenir sur des sentiers de croissance. De croissance dont il faut définir le contenu. Une croissance verte, une croissance écologiste. Donc ça suppose bien entendu de redéfinir après les ordres de priorité en matière de production. Mais si vous voulez, les dettes publiques sont parfaitement, viables. Il faut savoir qu'une dette publique qui va passer 100% en France, comme dans une série d'autres pays, si vous avez un tout petit peu d'activité avec des taux d'intérêt extrêmement bas, cette dette est parfaitement viable. Donc c'est pas un gros souci. Ce qui est plus préoccupant d'ailleurs un peu partout dans le monde, c'était plutôt les dettes privées qui s'étaient accumulées et qui là risquent d'avoir un problème de solvabilité qui est lié à la crise.
Alors Jean-Hervé Lorenzi, je voudrais que vous réagissiez, Jean-Hervé Lorenzi. Est-ce qu'il faut effectivement changer de priorité? Et puis la question de Christophe Rameau sur un rétablissement de l'ISF.
Non, mais avec plaisir, je réagis à tout ce qui est dit. Je ne sais pas à qui Christophe Rameau s'adresse, parce que ça fait sourire beaucoup de gens si vous me présentez comme un économiste libéral, et si vous me mettez sur le dos les politiques qui ont été menées depuis 20 ou 30 ans par des gouvernements dont je ne suis pas, à ma connaissance, parti. Donc arrêtons sur ce registre. Bon, quant à la rigueur, je ne s'adressais pas à vous et à votre rigueur naturelle, elle s'adressait juste à l'idée que on est dans une situation qui est depuis d'ailleurs 2 ou 3 ans extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Pardon de me citer, mais j'avais écrit un livre qui s'appelait Un monde de violence il y a 3-4 ans qui ne prévoyait évidemment pas cet événement, mais qui décrivait à quel point le monde tel qu'on l'avait bâti depuis 30 ans était, avec d'ailleurs l'assentiment de beaucoup de populations, une grosse large partie de la population. J'ai rappelé tout à l'heure que le consommateur était roi dans ce monde-là,
j'allais dire, de globalisation, parce que l'idée était que ça baissait les prix pour la consommation des uns et des autres, que ce monde-là était tout à fait en crise, et qu'il allait entraîner, de fait, des modifications profondes. Je crois que la situation était déjà très compliquée à comprendre avant cet événement d'épidémie. Il est encore plus compliqué avec lui. Et ce que je veux dire, c'est que les clivages habituels, beaucoup de choses qu'a dit Christophe non seulement ne me choquent pas, mais je les accepte tout à fait. Donc arrêtons de nous battre sur des débats qui sont des débats, j'allais dire, un peu convenus d'il y a une vingtaine d'années, et discutons du monde tel qu'il est, c'est-à-dire une croissance qui est une croissance mieux partagée, c'est une croissance qui est une croissance verte, c'est une croissance qui est une croissance qui absorbe la technologie avec tout ce qu'elle peut avoir de positif mais également de négatif, en tout cas dans les interventions, la perte de, j'allais dire, d'identité des uns et des autres. C'est un monde très compliqué auquel on est confronté. Je rappelle juste que cet univers moins globalisé qui a été déjà évoqué depuis 2 ans, c'est pas nouveau ce qui se passe. C'est en réalité, malheureusement, c'est venu des États-Unis, c'est venu du président Trump. Donc faisons attention à bien aller poigneusement dans des termes un peu généraux, un peu globaux. La globalisation, la mondialisation libérale, c'est une mondialisation libérale, mais très différente. Il y a 5 ou 6 moyens de aujourd'hui de sortir de la crise. Ils ont tous une part de marché comme importante, mais une part beaucoup plus importante de l'État. Donc tout ça est, j'allais dire, assez évident. La question est de savoir plus précisément, c'est-à-dire de sortir des généralités, plus précisément ce qu'on peut faire sur le cas de l'Afrique que vous avez parfaitement rappelé. Moi, je suis très conscient et favorable à l'idée qu'on revienne à des circuits plus courts. Quand on a dit ça, ça signifie, en Afrique, on voit bien que c'est la protection de l'agriculture vivrière, notamment. Mais dans les pays avancés, c'est plus compliqué. On parle de relocalisation, mais ça ne va pas se faire comme ça, de manière très, très aisée. On ne va pas faire de la chimie lourde ou de la sidérurgie forte en Europe. Donc, où est-ce qu'on imagine ce modèle-là? C'est ce travail-là qui me paraît important plutôt que de s'invectiver sur le rôle de savoir si le libéralisme c'est bien ou non, qui objectivement me paraît un peu décalé par rapport à la gravité de la situation.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI avec les économistes Jean-Hervé Lorenzi, Kako Nubukpo et Christophe Rameau. On va parler justement de situations extrêmement concrètes, car en France, le vent du boulet est bien là pour certains entrepreneurs, même ceux qui se font habituellement les chantres de la liberté d'entreprendre, de la flexibilité, se tournent aujourd'hui vers l'État, comme Jean-Hervé Lorenzi le rappelait il y a un instant, pour que celui-ci vole à leur secours. David Bachet est allé à la rencontre d'un patron de PME. Pour lui, l'alternative est claire aujourd'hui, la perfusion ou la mort.
Martial Delpy est artisan dans le bâtiment, en région parisienne. Depuis le début de la crise sanitaire, lui et sa 10aine de salariés ont vu leur activité se réduire drastiquement. Du coup, la trésorerie de cette petite entreprise est au plus mal.
On est clairement dans le rouge. Sur ce que l'on attendait ce mois-ci, on facture 20% en moins. Ça va être bien pire au mois d'avril, j'anticipe 50% de baisse au mois d'avril. C'est pas compliqué, j'avais 7 chantiers en cours, j'en ai 3 qui viennent de fermer pour cause de coronavirus. La trésorerie de l'entreprise ne peut que plonger, et en plongeant, c'est à terme des dépôts de bilan, forcément.
Martial Delpy compte donc sur les aides de l'État pour payer ses salariés et tout simplement pour ne pas couler.
On a tout de suite ouvert le dossier pour l'activité partielle et on attend toujours la réponse. Alors, si elle est favorable, elle va me résoudre mon problème du mois de mars, à savoir le personnel qui a été empêché de travailler ou qui s'est mis en retrait, que l'on doit payer. Je pense que dans les 2 mois à venir, ça devrait aller. Si on peut pas reprendre début mai, je sais pas comment on va arriver au bout.
Comme Martial Delpy, 337 000 chefs d'entreprise ont déjà formulé une demande de chômage partiel pour plus de 3,5 millions de salariés, selon le ministère du Travail. Grâce à ce dispositif, l'État prend en charge plus de 80% de la rémunération des salariés, même s'ils ne peuvent pas travailler. Le gouvernement a également mis en place d'autres mesures, à commencer par le fonds de solidarité destiné aux indépendants et aux petites entreprises, ce dont se félicite Alain Griset, président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité.
À l'UDP, nous avons beaucoup travaillé et obtenu aujourd'hui que ce fonds de solidarité permette à chaque indépendant de bénéficier dès le mois de mars de 1 500 euros à partir du moment où il y aura une baisse de 50% du chiffre d'affaires. Nous avons également le chômage partiel, le report des traites, des prêts, et puis ce crédit de trésorerie à hauteur de 25% du chiffre d'affaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour nos collègues, il y a un ensemble de dispositifs pour permettre à nos entreprises de passer ce moment terrible.
8,5 milliards d'euros pour le chômage partiel, 1,7 milliard pour le fonds de soutien, sans parler des décalages d'impôts dus au report de charges, ni même des garanties apportées aux entreprises auprès des banques. Les dépenses engagées par l'État pour soutenir les entreprises sont déjà abyssales et l'on n'en connaît pas encore la fin.
Dans ce contexte, Jean-Hervé Lorenzi, est-ce qu'il faut oublier la question des déficits et de la dette et donc renoncer à ça, et on verra après?
Bien sûr que oui. Objectivement, ce qui a été fait par le gouvernement en France sur le chômage partiel, au trou de raquette près, est bien fait. Et on voit bien que là aussi, ça reviendra. Mais aujourd'hui, personne n'a de doute sur la manière dont il faut traiter les problèmes de prise en charge par l'État des revenus et prise en charge par l'État du fond de la gravité de la situation. Je crois qu'il n'y a pas de difficulté là-dessus. La dette va augmenter, évidemment. On va penser peut-être dans un an, deux ans, la manière dont elle peut être pas éradiquée, mais être modifiée, parce qu'il y a bien forcément, il y a des créances, depuis que le monde est monde, il y a des créanciers, des débiteurs, il faut savoir qui gagne dans cette opération. Mais bien entendu que ces déficits, et je pense qu'on arrivera peut-être à une addition de 200 milliards. Enfin, on est très en dessous encore de ce qui de l'addition finale, et je m'en réjouis. Donc.
Mais il y a la dette et les déficits. Christophe Rameau, ça va quand même encore plus loin, parce que quand vous entendez le gouvernement français, qui n'est pas un club de gauchistes ou de communistes forcenés, dire par la voix du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qu'il ne faut pas exclure des nationalisations, c'était inimaginable il y a encore quelques semaines.
Oui, tout à fait. Hein. Il y a quelques semaines, on n'avait pas d'argent. Puis là, maintenant, bah, vous voyez ce que je veux dire. Finalement, on en trouve, et à juste titre.
On est dans un grand fourre-boutou, là.
J'espère bien, mais ils le font, ce fourre-boutou. Hein. Il y a, comme le dit Hervé Lorenzi, il y a quand même des trous dans la raquette, hein, dans le plan de soutien du gouvernement, notamment sur toutes les populations, par exemple, qui vont perdre leur emploi, non pas parce qu'ils sont licenciés, mais parce qu'ils étaient en CDD, en intérim, et ils n'ont plus trouvé de contrat. Hein. Donc il y a ce problème-là, là, sur les personnes qui vont se retrouver au chômage, non pas par licenciement, puisque ça, il y a a priori le dispositif de chômage partiel qui peut au moins momentanément et qui est bienvenu empêcher ce. Voilà. Mais bon, il y a des trucs dans la raquette. Mais plus fondamentalement, pour revenir à votre question, la dette publique. Si vous voulez, le poids de la dette publique aujourd'hui en France, le poids réel, c'est pas 100%. Le poids réel, c'est 2%. C'est-à-dire que c'est les intérêts, et au grand maximum, c'est les intérêts qu'on paye chaque année au titre de la dette. Durant les Trente Glorieuses, avec une dette beaucoup plus faible, on était aux alentours de 1%. C'est-à-dire que ça a doublé. Hein. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que c'est un État dans tous les pays du monde? Qu'est-ce que font les États pour payer leurs dettes? Ben, en fait, ils font courir leurs dettes. C'est-à-dire que, eh bien, pour rembourser les obligations qui arrivent à échéance, ils réempruntent. Bon. Et donc, ils font courir leurs dettes. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas du tout gênant, puisque les États, vous voyez, sont pas des ménages. Un ménage, passé un certain âge, vous avez bien compris, vous êtes obligé de rembourser votre dette. Vous pouvez plus emprunter parce que vous êtes mortel. Les États, ils peuvent faire courir leurs dettes. Et donc, qu'est-ce qu'on a observé? Ben, par exemple, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, un autre grand choc. Les dettes publiques étaient, dans les pays développés, entre 150 et 300% du PIB. On n'a pas eu besoin d'annuler les dettes. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la croissance, il y a eu une légère inflation, des taux d'intérêt qui étaient relativement, des taux d'intérêt réels qui étaient négatifs, en fait, et donc les dettes ont fondu comme neige au soleil, hein, sans qu'on ait d'ailleurs eu besoin de restructurer ces dettes. On était à 30% de dettes publiques dans les pays développés à la fin des années 70, et c'est le néolibéralisme qui a réexplosé les dettes publiques à partir des années 80. Hein. Néolibéralisme, pourquoi? Parce que le néolibéralisme étouffe l'activité. Ce qui est important dans les ratios de dettes, c'est le dénominateur. Hein. C'est-à-dire on compare les dettes comme les déficits
au PIB. Et si on étouffe l'activité, eh bien, étouffe, c'est-à-dire des croissances modes parce qu'il y a des inégalités, ou même des récessions très profondes, 2008, et puis la crise actuelle, eh bien, bien entendu, les ratios de dette réaugmentent. Mais la dette en elle-même, si vous voulez, je vous dis pas que c'est bien que les dettes publiques augmentent en soi, mais les dettes publiques, c'est vraiment pas l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est non seulement de relancer l'activité, mais de faire qu'elle soit plus juste socialement et qu'elle soit soutenable d'un point de vue écologique. Ça suppose de fixer des ordres de priorité, de revenir y compris à des systèmes de planification, pas de planification intégrale, hein, mais où on pilote l'économie pour dire ben, telle activité, on va plutôt la défavoriser, l'économie brune, le charbon, etc. Et telle autre activité, ben, il faut vraiment mettre le coup d'accélérateur de façon y compris à créer des emplois qui soient socialement et écologiquement utiles. Ce qui est valable pour les pays développés et bien entendu valable pour les pays, notamment pour l'Afrique.
Alors accroître la dette et puis diriger l'économie, donc ce que vous proposez Christophe Rameau, pour les pays du Nord, on se dit pourquoi pas. Pour les pays d'Afrique, les pays du Sud, Kakou de Boukpo, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que ils sont déjà extrêmement endettés. Est-ce que les gouvernements africains, pour vous, disposent d'armes efficaces pour surmonter la crise, relancer leur machine économique? Est-ce qu'ils ont les moyens de mettre à la fois des filets sociaux aujourd'hui, des compensations financières et ensuite d'injecter de l'argent pour que les économies redémarrent?
Ça va être difficile. Une des pistes à l'étude à l'heure actuelle, c'est l'effacement de la dette. Le problème, c'est que tant que c'est la dette extérieure, son effacement est gérable, encore que cette dette extérieure est de plus en plus commerciale, avec des bailleurs qui ne sont pas dans le club de Paris, comme la Chine. Mais quand c'est la dette intérieure, vous ne réglez pas le problème, parce que c'est l'État qui est endetté vis-à-vis des opérateurs économiques, qui eux-mêmes sont endettés vis-à-vis de votre système bancaire. Donc, l'effacement de la dette, c'est une bonne piste. Mais pour la dette intérieure, il faut faire attention. Après, je vais dire quelque chose qui va faire plaisir à mon ami Christophe Rameau, qu'il faut qu'on construise l'État social en Afrique. Et ça, ça passe par l'élargissement de l'espace fiscal. Il faut savoir que le taux de pression fiscale aujourd'hui dans nos pays, c'est inférieur à 20%, compte plus de 40% en France. Donc, il y a de la marge et puis surtout la gouvernance. La difficulté que nous avons en Afrique, c'est que on n'est pas souvent dans des choix judicieux en matière de financement des politiques publiques. Mais là, l'urgence, clairement, c'est les infrastructures de santé. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les programmes de santé publique, comme la vaccination, l'Afrique est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que quand on a des cas graves par rapport au coronavirus, il ne faut pas se faire d'illusions. L'Afrique n'est absolument pas prête. J'ai fait les calculs. Si on suppose que 0,01% de la population africaine va être impactée, et ça fait 100 000 morts. Si c'est 0,1%, on sera à 1 million de morts. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une urgence qui est de passer le cap du coronavirus et construire ensuite des politiques publiques plus inclusives.
En prenant en compte également le secteur informel ?
Oui, moi je préfère parler d'économie populaire qui prend 80% de notre économie, mais en changeant surtout le type de croissance. Parce que la difficulté africaine, c'est que la dette ne produit pas une croissance inclusive. Donc, de façon cyclique, on se retrouve dans des situations d'insoutenabilité de la dette. Il faudrait que la dette permette de financer des programmes de transformation sur place de matières premières, qui crée des emplois, donc des revenus et donc des impôts qui permettent de rembourser les déficits à la fin du cycle. Donc c'est pour ça que c'est tout un ensemble de choses qu'il faut voir, passer le court terme parce qu'il y a urgence, mais ensuite profiter quelque part, je sais que c'est un peu cynique, de cette crise pour construire, moi ce que j'appelle, des modèles de prospérité partagée.
Eh bien, acceptons-en l'augure. Merci beaucoup à tous les trois, Kakou de Boukpo, Jean-Hervé Lorenzi et Christophe Rameau. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté de débattre et d'y participer. Une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur RFI.fr et sur vos applications mobiles RFI et Pure Radio. Un petit et même un grand salut amical à Jean-Pierre Boris. On se retrouve la semaine prochaine dans un instant. L'info sur RFI. Prenez soin de vous.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. À écouter sur